Chapitre 58, les ruses de Satan. J'ai vu de mauvais anges se battre pour des âmes, et les anges de Dieu qui leur résistaient. La lutte était âpre. Les mauvais anges se pressaient autour d'elles, empoisonnant l'atmosphère, paralysant leur sensibilité. Des saints anges veillaient anxieusement sur ces âmes, prêts à repousser l'armée de Satan. Mais les bons anges n'exercent pas leur action sans le consentement des individus. Si ceux-ci cèdent en face de l'ennemi, sans offrir de résistance, les anges de Dieu doivent se borner à tenir en échec l'armée de Satan, pour qu'elle ne détruise pas ceux qui sont en péril avant que de plus grandes lumières ne leur soient communiquées pour les réveiller et les pousser à réclamer l'aide du ciel. Jésus n'enverra pas ses saints anges pour délivrer ceux qui ne font aucun effort en vue de leur salut. Quand Satan est sur le point de perdre une âme, il redouble d'efforts pour la garder. Si cette âme, consciente du danger, crie sa détresse et implore le secours de Jésus, Satan, craignant de perdre un captif, appelle un renfort pour enclore cette pauvre âme, l'envelopper des ténèbres si épaisses qu'aucun rayon de lumière céleste ne puisse l'atteindre. Mais si l'âme en danger persévère dans ses efforts, sentant son impuissance et faisant appel au mérite du sang du Christ, Jésus accueille la prière fervente de la foi, envoie un renfort d'anges puissants pour la délivrer. Satan ne peut supporter qu'on ait recours à son puissant rival, dont la force et la majesté le remplissent de frayeur. À l'ouïe de la prière fervente, toute l'armée de l'adversaire est saisie d'effroi. Les renforts des légions sataniques continuent à affluer, mais quand les anges puissants, revêtus de l'armure du ciel, se précipitent au secours de l'âme assaillie et défaillante, alors Satan et son armée battent en retraite, sachant bien que la bataille est perdue. Ceux qui se soumettent volontairement à l'ennemi sont fidèles, actifs et unis. Malgré la haine qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, ils saisissent cependant toutes les occasions favorables à leurs intérêts communs. Mais le grand chef du ciel et de la terre a mis une limite à la puissance de Satan. Ne pas s'aventurer sur le terrain de Satan. Les anges de Dieu garderont son peuple aussi longtemps qu'il marchera dans le sentier du devoir. Mais ceux qui s'aventurent délibérément sur le terrain de Satan n'ont pas l'assurance d'une telle protection. Si un agent du grand imposteur se présente, il fera et dira n'importe quoi pour atteindre son but. Peu lui importe de s'appeler spirit, docteur en électricité ou guérisseur magnétique. Par des prétentions spécieuses, il gagne la confiance de ceux qui ne sont pas sur leur garde. Il prétend lire l'histoire de la vie et comprendre toutes les afflictions et toutes les difficultés de ceux qui s'adressent à lui. Se déguisant en ange de lumière, alors que les ténèbres de l'abîme sont dans son cœur, il manifeste un grand intérêt pour les femmes qui recherchent son conseil. Il leur dit que toutes les difficultés sont dues au mariage malheureux. Ceci peut n'être que trop vrai, mais un tel conseiller n'améliore pas leurs conditions. Il leur dit aussi qu'elles ont besoin d'amour et de sympathie. Prétextant un grand intérêt pour leur bonheur, il jette un sort sur ces innocentes victimes, les charmant comme le serpent charme l'oiseau tremblant. Elles sont bientôt complètement en son pouvoir, le péché, la honte et la ruine résultent de cette pratique. Ces ouvriers d'iniquité ne sont pas rares. Des foyers dévastés, des réputations ruinées et des cœurs brisés sillonnent leur chemin. Mais le monde est peu éclairé à ce sujet, et les suppôts de Satan continuent à faire de nouvelles victimes tandis que leur maître exulte de la ruine qu'il accomplit. Or, Acasia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, « Allez, consultez Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron ? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté car tu mourras. » L'histoire du péché et du châtiment du roi Acasia comporte un avertissement qu'on ne peut impunément dédaigner. Bien que nous ne rendions pas hommage à des dieux païens, des milliers de gens adorent cependant à l'autel de Satan aussi réellement que le roi d'Israël. L'esprit même de l'idolâtrie païenne domine aujourd'hui, bien qu'il revête une forme raffinée et plus attrayante sous l'influence de la science et de l'éducation. Chaque jour confirme le fait que la foi dans la surparole de la prophétie décroît rapidement et qu'à sa place, la superstition et la sorcellerie satanique captivent l'esprit des hommes. Tous ceux qui ne sentent pas les Écritures avec ferveur, soumettant chaque désir et chaque dessein de leur vie à cet infaillible critère, tous ceux qui ne cherchent pas Dieu dans la prière pour connaître sa volonté, s'égareront sûrement loin du droit sentier et ils tomberont dans les pièges de Satan. Les Hébreux étaient la seule nation qui avait eu la faveur de connaître le vrai Dieu. Quand le roi d'Israël envoya des messagers consulter l'oracle du Dieu d'Écron, il montra aux païens qu'il avait plus de confiance dans leurs idoles que dans le Dieu de son peuple, le Créateur des cieux et de la terre. De même, ceux qui prétendent connaître la parole de Dieu le déshonorent quand ils se détournent de la source de la sagesse et de la force pour chercher aide ou conseil auprès des puissances des ténèbres. Si la colère de Dieu s'enflamma à cause de cette façon d'agir d'un roi méchant et idolâtre, comment considéra-t-il une semblable attitude de la part de ceux qui se disent ses serviteurs? Nul ne peut servir deux maîtres. Christ nous place en face de deux maîtres. Dieu est le monde, et il a clairement mis en évidence le fait qu'il est absolument impossible de les servir tous les deux. Si nous plaçons nos intérêts et notre amour dans le monde, nous n'apprécierons pas les choses qui, par-dessus toutes les autres, sont dignes de notre attention. L'amour du monde exclura l'amour de Dieu et subordonnera nos intérêts les plus élevés aux considérations mondaines. Ainsi, Dieu n'occupera pas dans nos affections et nos dévotions la place que tiennent les choses du monde. Satan essaie de séduire les hommes avec plus de précaution qu'il ne le fit avec le Christ au désert. Il se souvient qu'il perdit la bataille et qu'il est un ennemi vaincu. Il ne s'approche pas de l'homme directement et ne réclame pas d'être adoré ouvertement. Il lui suggère simplement de placer ses affections sur les bonnes choses de ce monde. S'il réussit à capter ses pensées, il sait qu'il a fait perdre l'attrait que peut avoir le ciel. Tout ce qu'il désire de l'homme, c'est qu'il cède à la puissance illusoire de ses tentations qui consiste à aimer le monde, les places d'honneur, l'argent, ainsi qu'à mettre son cœur dans les trésors terrestres. S'il peut réussir, il obtient tout ce que jadis il demanda au Christ.